Bonjour et bienvenue dans votre rendez-vous hebdomadaire du Trends Talk. En cette veille d'ouverture de la COP26 à Glasgow, nous allons évidemment parler des enjeux climatiques et des différentes manières de répondre à ces enjeux. Et nous allons en parler en compagnie de Marie-Christine Marguem, députée MR et surtout en l'occurrence ancienne ministre de l'Environnement et de l'Énergie. Madame Marguem, bonjour.
Bonjour Monsieur De Cavel.
Et donc cette COP26 s'ouvre. Vous, pendant votre mandat, vous avez participé à plusieurs de ces fameuses COP. Est-ce que ce sont des grands messes ou est-ce que c'est un rendez-vous utile ?
Alors, c'est un rendez-vous incontournable et utile. Il y a l'aspect grand-messe, immanquablement, puisque vous avez des discours qui sont faits à la tribune par tous les pays et par l'Europe, puisque la Belgique agit au sein de l'Europe dans ce cadre-là. Mais vous avez aussi des events, vous avez des rassemblements, vous avez des réunions thématiques avec des gens que vous rencontrez au fil des COP et avec lesquels on peut se tenir au courant de ce qui se passe ailleurs dans le monde, se tenir au courant des urgences, essayer d'échanger de bonnes pratiques. J'avais par exemple fait une initiative aidant les pays qui commençaient à calculer leur tableau de CO2, d'émissions de CO2, pour qu'avec mon administration, nous puissions leur donner les outils qui leur permettaient immédiatement de le calculer bien. Et donc, c'était intéressant de pouvoir évidemment échanger avec eux, de leur dire que ça existait, de leur montrer comment entrer dans le pipe pour obtenir cette aide. Et d'autres pays font d'autres choses. Vous rencontrez des chefs d'entreprise, vous rencontrez des représentants d'ONG, vous rencontrez des collègues. Donc, c'est un grand rassemblement dans lequel vous apprenez beaucoup.
Mais donc ces grands rassemblements ont lieu depuis maintenant, je ne sais pas combien d'années, mais une bonne vingtaine d'années, et on ne voit pas les choses évoluer de manière drastique. Le dernier rapport du GIEC cet été disait encore que les dégâts étaient maintenant irréversibles. Et donc comment se fait-il qu'en dépit de cette prise de conscience, des éléments scientifiques, on ait tant de mal à mettre en œuvre les solutions ?
Alors là, c'est un gros point d'interrogation et c'est triste de remarquer qu'à chaque COP, il y a de plus en plus de messages d'urgence qui sont livrés non seulement par les responsables, les organisateurs, mais aussi par les pays qui sont immédiatement impactés. Et c'est là que vous vous rendez compte vraiment de la réalité et que vous repartez avec ce sentiment très concret et très poignant des témoignages de ces pays-là. Et c'est pour cette raison que quand vous rentrez dans les difficultés quotidiennes de votre pays, surtout quand vous êtes en charge, qu'il faut essayer vraiment de porter le fer là où c'est nécessaire et là où c'est possible. Parce que tout n'est pas possible. Il faut investir tellement et il y a tellement d'autres urgences dans votre pays en termes de lutte contre la pauvreté, de lutte pour faire en sorte que tout le monde, ici avec cette crise sanitaire, puisse être aidé adéquatement et repartir, de transformation de votre régime de pension, etc. etc. Donc on est de nouveau dans le quotidien et c'est difficile de porter le fer avec tout un gouvernement pour aller dans le bon sens. On le voit encore aujourd'hui, même avec la participation d'écolos au niveau du gouvernement fédéral.
Et vous, à titre personnel, c'est des enjeux qui vous inquiètent ou bien vous êtes confiante en l'espèce humaine, en la capacité à un moment donné, de prendre les solutions qui s'imposeront.
Mais écoutez, je ne suis pas d'un naturel inquiet et par contre, je suis plutôt responsable et active et combative. Et donc, à partir du moment où je me rends compte de ça, je dis, il faut vraiment faire ce qui est nécessaire, ce qui est efficace et faire de préférence les meilleurs choix, c'est-à-dire ceux qu'on est capable d'absorber financièrement et économiquement pour donner la bonne direction à notre pays qui participe à un effort mondial à travers l'Union européenne, puisque nous ne nous exprimons pas à la tribune des Nations unies comme pays dans le cadre des COP, mais qu'on le fait à travers l'Union européenne. Enfin, on le fait aussi pour expliquer ce qu'on a fait précisément, puisque c'est important que chaque pays vienne expliquer à la tribune quels sont les efforts qu'il engrange et qu'il veut promouvoir dans l'avenir. Mais en réalité, l'effort que nous faisons est un effort qui est comptabilisé au niveau de l'Union européenne.
Est-ce que vous pensez qu'il y a moyen de répondre aux défis climatiques en gardant, je dirais, notre mode de vie, son confort, ses aspects de plaisir dans les déplacements, etc. Ou est-ce qu'il faudrait à un moment donné ne plus faire certaines choses qu'on avait pris l'habitude de faire sans trop prêter attention aux émissions que cela générait ? Je pense à des déplacements en avion à petite distance et ce genre de choses.
Il faut faire attention, mais il ne faut pas non plus changer radicalement de mode de vie et aller à l'envers de l'histoire. Toutes les sociétés se sont développées parce qu'elles elles y ont mis l'énergie, la volonté et l'intelligence humaine, avec l'aide de la technologie, et elles ont permis à des populations, malheureusement pas partout dans le monde, parce qu'il y a encore des enfants qui ne savent pas faire leurs devoirs parce qu'ils n'y ont pas de lumière, il y a des enfants qui ont froid, il y a aussi des adultes, hein, il n'y a pas que les enfants, mais l'exemple le plus poignant, ce sont les enfants. Et donc, ça montre que ce progrès profite à certaines parties de la population mondiale, pas à d'autres, premier problème. Et deuxième problème, que ce progrès est un acquis de la présence de l'être humain sur Terre. Évidemment, comme il génère des conséquences qui pourraient justement amenuiser la possibilité pour la race humaine de durer encore des milliers d'années, et notamment en raison aussi de la surpopulation mondiale, il faut pouvoir réfléchir et gérer tout cela. C'est très difficile, c'est un enjeu fantastiquement compliqué, et donc tous les pays sont engagés dans cette lutte, et on trouve évidemment, enfin, on peut tous trouver à certains moments que ça ne va pas assez vite, et en même temps, on trouve que, de mon point de vue, je trouve qu'il faut utiliser la technologie, l'intelligence humaine, pour faire les bons choix, afin non pas de revenir en arrière, non pas de priver du confort minimum ceux qui l'ont acquis, mais plutôt d'essayer de fournir ce confort minimum à ceux qui ne l'ont pas encore, et de progresser tous ensemble en utilisant les solutions technologiques qui s'offrent à nous. Parce que revenir au temps des cavernes et faire des choix qui sont des choix... certes, il y a un mot nuancé pour dire ça, la sobriété c'est bien, mais le recul en arrière, ça c'est pas bon, parce que vous allez déprimer toute une population, il y aura moins de contacts, il y aura moins de voyages, il y aura moins de culture, il y aura moins de capacité de faire des liens et de créer par l'intelligence de ces contacts de nouvelles choses pour l'humanité dans l'intérêt de celle-ci. Donc tout ça, il faut bien le mesurer.
Mais ce n'est pas forcément non plus un retour à l'âge des cavernes. Il ne faut pas non plus exagérer.
Écoutez, quand on écoute certains, franchement, on croit qu'ils sont tellement pris par l'angoisse et la peur qu'ils les figent. C'est très mauvais. Il faut regarder les choses rationnellement et avoir l'input nécessaire, la combativité nécessaire pour aller de l'avant tous ensemble.
Moi, j'avais été très marqué par l'expression de Nicolas Hulot qu'il fallait concilier les problèmes de fin du monde et les problèmes de fin de mois. Est-ce que vous avez l'impression qu'on peut concilier ces deux problèmes, trouver les formules qui vont répondre à ces deux enjeux que vous aviez décrits d'ailleurs ?
Oui, je crois que c'est une belle expression qui dit bien ce qu'elle veut dire. Et d'ailleurs, c'était à une époque un peu avant ou un peu après les Gilets jaunes. Hein. Ouais. Et donc, à partir du moment où vous commencez à surcharger de taxes pour inciter les gens à ne plus utiliser tel ou tel produit, parlons basiquement de l'essence et du diesel à la pompe. Ici, on n'a même pas besoin de faire jouer les accises, ça grimpe tout seul, parenthèse. Eh bien, vous devez essayer de comprendre que votre population doit être en mesure, par les politiques qui sont développées, de choisir la meilleure formule qui lui convient le mieux par rapport à son niveau, à ses besoins et à ses possibilités financières. Et, si nécessaire, donner aussi de l'aide à celles qui ont le plus de mal. Donc, si on veut installer des panneaux solaires, si on veut installer des pompes à chaleur, si on veut aider à l'isolation des bâtiments, il faut pouvoir donner la possibilité, en fonction des possibilités des uns et des autres. Donc, ça ne doit pas être une possibilité financière de soutien linéaire. Ça peut être tout à fait graduel en fonction de ce que les différentes classes sociales sont en mesure financièrement de donner pour cette amélioration, mais intelligemment, pouvoir permettre comme ça aux gens de choisir la meilleure solution. Vous savez, dans les Ardennes, c'est difficile de dire aux gens qu'ils doivent se séparer de leur voiture. Et s'ils doivent alors, puisqu'ils ont l'habitat est moins concentré, s'ils doivent isoler, s'ils doivent se fournir en panneaux solaires, acheter une voiture électrique dont l'autonomie serait intéressante et pouvoir la recharger avec leurs panneaux solaires, mais une batterie, enfin leur voiture est déjà une batterie, mais une batterie supplémentaire, tout ça génère énormément de frais, donc il faut qu'ils y voient un intérêt.
Oui, donc ça c'est un peu la question de l'acceptation sociale des mesures quoi, qui ne sont pas toujours évidentes à faire passer. Je ne sais pas, par exemple, vous avez cité, parlé de l'isolation des bâtiments, etc. Mais quand on parle de voyage en avion de courte distance, est-ce que ça, ce n'est pas quelque chose qu'on devrait peut-être oublier, prendre l'avion pour aller dans le sud de la France ?
Franchement, je trouve que on peut très bien... Mais alors bon, il n'y a pas 36 solutions. On peut le faire en train quand il y a évidemment des lignes qui vous permettent de le faire. Ce n'est pas toujours le cas non plus.
Et c'est souvent beaucoup plus cher.
Et c'est souvent beaucoup, mais vraiment beaucoup plus cher. Et on peut le faire en voiture. Et là se repose le même problème de la voiture. Donc la voiture électrique, qui est faite au départ de matériaux qui sont finis, donc on n'en aura pas pour des milliers d'années, qui fonctionne à l'électricité, donc il faut la produire. Comment la produit-on ? Il faut aussi la recharger. Où la recharge-t-on ? Et il y a évidemment financièrement un pécule à avancer qui est... Bon, ça tend à se lisser, mais qui est quand même encore relativement important pour avoir une batterie qui a suffisamment d'autonomie pour vous conduire au saut de puce que vous pourriez faire en avion.
Avec la voiture électrique, justement, comme vous en parlez, vous n'avez pas l'impression que le gouvernement met un peu la charrue avant les bœufs en imposant, ou en tout cas avec des incitants tels que ça revient à imposer l'usage de la voiture électrique, alors que dans plein d'endroits, les gens ne savent pas comment ils pourraient la recharger.
Mais c'est tout le problème de ces politiques linéaires. Donc c'est la grosse difficulté, c'est-à-dire que vous revenez chez vous avec tous les sentiments et toutes les émotions d'un grand rassemblement mondial formidable, vous retombez dans le quotidien et vous devez, avec une équipe gouvernementale, trouver les solutions les plus adaptées pour que votre population... Ça, je trouve que c'est dans ce sens-là qu'il faut aller, c'est moi qui le dis. Votre population est le choix entre diverses possibilités, sans être contraint, et toujours contraint de faire des efforts, etc., etc., des efforts financiers.
Ça, c'est votre optique libérale, que les gens gardent le choix et leur autonomie.
Écoutez,
du choix.
Écoutez, je n'ai pas eu besoin d'être libéral pour exprimer mon envie et mon besoin de liberté. La démocratie le dit d'elle-même. J'ai la chance, j'ai la grande chance de vivre dans une démocratie et j'estime que dans ce cadre-là, la liberté doit être un des principes fondamentaux dans tout ce que l'on fait dans la vie. Liberté de choisir qui on aime, liberté de vivre avec qui l'on veut, liberté d'aller où l'on veut, de dire ce que l'on veut dire. C'est d'ailleurs, ce sont les premiers articles de notre Constitution, la liberté d'opinion, de s'associer, etc. Donc, on doit faire en sorte de laisser aux gens la possibilité, par les politiques qu'on met en place, de choisir la meilleure solution pour eux. Parce que je crois qu'il y a beaucoup de gens qui veulent bien faire un effort. Mais ce qui les tue, c'est qu'on leur impose toujours des tas de trucs, c'est qu'on les contraint à faire ceci et pas cela, et de plus en plus dans leur vie quotidienne. Et la vie quotidienne est déjà tellement compliquée, tellement dure, surtout après cette crise sanitaire, je crois qu'il faut essayer de réouvrir les choses et de trouver les bonnes politiques. Il y a moyen, et en se mettant tous autour de la table, et je pense que c'est pas une question idéologique, ça, c'est vraiment une question organisationnelle.
Vous croyez vraiment que sans contrainte... les citoyens vont adapter leur comportement pour une plus grande durabilité, de répondre aux enjeux climatiques, etc.
Mais écoutez,
sans contrainte, il y a moyen.
Je vais prendre le problème dans l'autre sens. Imaginez qu'on électrifie tous les véhicules dans ce pays. Environ 4 500 000 à 5 millions de véhicules. Petits, moyens et gros. Déjà, ça pose des problèmes techniques pour les gros véhicules. Je ne parle que du véhicule de la famille, donc le véhicule automobile. Eh bien, vous devez produire au moins 20 TWh de plus en électricité. Oui. Donc, vous devez commencer par vous poser la question de savoir si votre parc de production et tout ce qui va avec, les interconnexions et le mix électrique de votre parc, va supporter ce genre de demande, y compris dans le réseau de distribution, jusqu'au dernier consommateur lambda. Donc ça, c'est le premier problème. Le deuxième problème, c'est que il faut voir ce que coûte un véhicule électrique. Et en plus, il faut se poser la question de savoir si, dans une transition vers une énergie propre, un habitat propre, une mobilité propre. Il n'y a pas un bouquet de solutions qui, en agissant ensemble, vous permet d'aller mieux vers cette transition pour l'absorber financièrement et pour aider à ce que les comportements de vos concitoyens s'y adaptent sans être toujours en train de leur taper sur la tête en disant « faut faire ça et pas ça » et « vous aurez tel avantage fiscal là, mais pas là », etc. Ça, je trouve que ça ne va pas.
Et dans ce mix de solutions, si j'ai bien lu vos propos, vos interviews ces derniers jours, vous trouvez qu'on doit continuer à accorder une place à l'énergie nucléaire en Belgique au-delà de 2025. Quand vous étiez ministre, alors pourquoi n'avez-vous pas pris la décision de prolonger plus de réacteurs ?
Parce que je ne pouvais pas la prendre toute seule. J'étais dans une équipe gouvernementale liée par un accord de gouvernement qui avait décidé à tort, mais j'étais obligée de chanter la liturgie de l'accord de gouvernement auquel je m'étais liée par ma présence dans le gouvernement. Et si je l'avais quitté, un autre m'aurait remplacé et aurait fait ce que l'accord de gouvernement disait qu'il fallait faire. Et donc, cet accord de gouvernement est fiché comme celui d'aujourd'hui sur une loi idiote qui a été votée en 2003 de façon péremptoire en confondant la durée d'exploitation réelle de réacteurs nucléaires avec leur date d'utilisation légale. Ouais. Et ça, c'est lié à une idéologie qui est l'idéologie écolo. C'est d'ailleurs un des thèmes fondamentaux de la constitution du parti politique écolo il y a une grosse cinquantaine d'années. Mais aujourd'hui, nous avons un changement d'attitude parce que nous avons l'urgence climatique. On le rappelle tous les jours, qu'est-ce qu'on va dire aux pays à qui on parle dans ces COP et encore ici dans quelques heures, quand on va leur présenter notre bilan CO2, sachant que l'énergie nucléaire produit peu de CO2, qu'elle produit une énergie dense, donc beaucoup d'énergie et pas cher. Donc trois avantages fondamentaux. La sécurité d'approvisionnement, pas beaucoup d'augmentation de la facture d'électricité parce que l'énergie produite par nos réacteurs qui sont amortis n'est pas chère, et peu de CO2.
Mais entre 2003 et 2019, il n'y a pas eu de ministre écologiste au gouvernement fédéral. Alors comment expliquez-vous que des décisions de prolongation n'aient pas pu être prises un peu plus, parce qu'il y en a eu deux dans votre gouvernement.
Écoutez, je n'en sais rien, donc
Est-ce que le monde politique a pris bien la mesure de du vote qui a été fait en 2003 ?
Je ne crois pas. Je ne crois vraiment pas. J'ai l'impression. En plus, dans cette loi, au départ, il y avait un verrou qu'on pouvait ouvrir et qui était celui de dire de toute façon, on peut prolonger si la sécurité d'approvisionnement l'exige. C'est d'ailleurs ce que le gouvernement Di Rupo a fait. Et mon gouvernement également, puisque le gouvernement Di Rupo de 2010 à 2014, enfin pas exactement en 2010 puisque nous avons eu une crise à ce moment-là, mais a prolongé donc Tianjin et notre gouvernement a prolongé Doulin Doulde, mais seulement jusqu'en 2025. Et donc, à partir du moment où vous avez des gens qui confondent transition énergétique avec sortie du nucléaire, vous êtes dans un biais intellectuel.
Mais pour les
absolument
élections de,
invraisemblable.
Pour les élections de 2019, c'était dans le programme du
MR
de rester.
Mais bien sûr, mais bon, nous n'étions que très peu.
Mais dans votre programme, c'est votre programme, vous ne devez pas encore le négocier avec les autres partis au moment de faire son programme avant les élections.
Je suis tout à fait d'accord, mais ça, donc je n'ai pas rédigé ce programme, je n'ai pas non plus rédigé l'accord de gouvernement dans lequel je suis rentré, je n'ai pas non plus rédigé l'accord actuel. Ça n'est pas pour me défausser que je dis ça, c'est simplement pour vous dire que ma successeure a eu plus de chance parce qu'elle a participé aux négociations de l'accord de gouvernement actuel et qu'elle a infusé son idéologie dans cet accord de gouvernement, qui est évidemment toujours de suivre, puisqu'ils n'ont plus été, vous l'avez rappelé, présents écolo-groun au gouvernement fédéral pendant 17 ans, entre 2003 et maintenant, de suivre la logique de cette loi, mais de façon idiote, parce qu'aujourd'hui, le paradigme a complètement changé. Il est fondamental de diminuer les émissions de CO2, ou en tout cas de ne pas en produire plus.
C'est l'urgence climatique qui impose, selon vous, de reconsidérer la vision du nucléaire.
Mais complètement. mais complètement, dans la mesure où, quand elle dit « on ne va pas remplacer le nucléaire par des centrales à gaz, on va remplacer le nucléaire par du renouvelable », d'abord, elle ne sera pas en mesure de le faire dans le cadre de sa charge ministérielle. J'ai installé plus de 1500 mégawatts en mer du Nord en diminuant de 4 milliards d'euros le soutien aux exploitants pour éviter que la facture du citoyen augmente. Donc c'est possible et c'est le contraire de l'attitude dévoyée de Jean-Marc Nollet avec les panneaux solaires en région wallonne il y a quelques années, qu'on est encore en train de devoir absorber maintenant avec diverses taxes pour tous ceux qui ont placé des panneaux solaires, ça c'est un. Donc elle ne saura pas installer d'éoliennes durant sa charge. Elle en installera peut-être parce qu'elle mettra au point un mécanisme qui devra être concrétisé après sa charge, mais le fond de l'affaire, c'est que l'éolien est intermittent. Quand il n'y a pas de vent, il faut faire fonctionner des centrales. Et donc, le backup, c'est-à-dire qui vient en soutien et sur lequel on pousse de manière flexible pour donner l'électricité qui n'est plus produite par l'éolienne parce qu'il n'y a plus de vent, c'est des centrales à gaz. Donc, quand vous remplacez le nucléaire par du renouvelable, d'abord, vous parlez de deux choses différentes parce que le nucléaire est pilotable et le renouvelable est intermittent, il n'est pas pilotable. Et deuxièmement, le nucléaire produit peu CO2 et le renouvelable aussi. Mais il a besoin, pour continuer à produire, à un autre moment, que des centrales à gaz interviennent. Donc vous alourdissez votre bilan CO2, parce que le GIEC l'a rappelé des dizaines de fois, le nucléaire et le renouvelable produisent l'un comme l'autre peu de CO2. Oui. Ils sont équivalents. Mmh. Et donc c'est pour cette raison qu'il faut choisir l'énergie dense, pilotable et pas chère, et pauvre en CO2 du nucléaire.
À titre transitoire, le temps qu'on développe plus d'énergie renouvelable et surtout peut-être qu'on interconnecte toutes les installations au sein de l'Europe, puisque si c'est intermittent, on peut peut-être penser qu'il y a toujours du soleil ou du vent quelque part en Europe, par exemple.
Oui, vous avez raison. Donc il faut s'ouvrir l'esprit et j'avais comme ministre lancé déjà tout ce maillage d'interconnexion en mer du Nord avec tous les pays qui l'entourent. Il faut savoir qu'en mer, contrairement aux éoliennes terrestres, on a un taux de charge, donc une efficacité de l'éolienne qui est beaucoup plus intéressante. Tout le monde peut le comprendre, il y a plus de vent. Néanmoins, comme tous ces pays entourent la même mer, quand il n'y a pas de vent au Danemark ou en Hollande, il n'y en a pas non plus en Belgique. Donc le vrai problème, le vrai challenge, c'est de trouver le stockage à grande échelle, c'est-à-dire d'être capable de faire des batteries qui vont stocker des gigawatts de production électrique par le renouvelable, en l'espèce les éoliennes en mer, pour pouvoir restituer cette énergie quand il n'y a plus de vent. Donc, au moment où il y a du vent, il y a beaucoup d'énergie, on la stocke, et puis on la restitue après quand il n'y a plus de vent. C'est seulement à ce moment-là que nous pourrons entrer dans une transition qui fera s'éteindre le nucléaire pour le remplacer de plus en plus par le renouvelable. Et ça, ce n'est pas demain. Donc, il faut pouvoir s'ouvrir l'esprit et dire on doit prolonger nos réacteurs nucléaires pour le temps nécessaire à ce qu'on trouve le stockage à grande échelle. Et donc, il faut aussi…
– Le stockage, il y a des gros budgets européens, le plan de relance belge parle du stockage finalement.
Oui,
il y a l'hydrogène, mais il y a
aussi,
stockage aussi.
Et j'ai créé un fonds de transition énergétique dont la vertu est
de soutenir… – C'est un pari sur la science, on ne peut pas dire que ça va être… On aura la solution dans 5 ans ou dans 10 ans. –
Non, parce que tout ça est à l'état d'étude, de projet pilote si vous voulez. Parce qu'on parvient maintenant à stocker environ 200 mégawatts, mais ce n'est vraiment pas suffisant. Hein, et ce sont encore des projets qui ne sont pas industriels. Donc il faut continuer à chercher et il faut soutenir la recherche. C'est ce qu'on fait en Belgique avec le fonds de transition énergétique que j'ai créé, avec le plan de relance. L'Europe fait la même chose. Il faut vraiment continuer dans ce sens-là. Mais vous dire quand, personne ne pourra vous le dire et ce n'est pas demain ni après-demain.
D'autant que ces batteries utilisent aussi des terres rares et des matériaux qui ne sont aussi, qui ne sont pas inépuisables.
Oui, alors évidemment, il y a d'autres possibilités de stockage. Vous pouvez pouvait transformer l'électricité en hydrogène pour stocker un amas, donc un gros stock d'électricité produite à un moment donné parce qu'il y a beaucoup de vent, et puis le restituer.
Là, l'industrie belge est pas mal positionnée sur l'hydrogène.
Oui, donc ils sont en pointe là-dessus, donc on finira par trouver des solutions. Mais entre-temps, moi je crie casse-cou. Pourquoi ? Parce que, un, il y a l'urgence climatique, et deux, il y a le portefeuille des ménages. Il faut quand même...
Écoutez, on revient à ce qu'on disait au début.
Mais oui, mais quand vous achetez l'acceptabilité, quand vous achetez une voiture que vous amortissez fiscalement, l'État, heureusement, ne vous oblige pas encore à acheter tout de suite, à la fin de l'amortissement fiscal, une nouvelle voiture. L'État vous permet d'utiliser votre voiture encore plusieurs années gratuitement. Hein? Donc ici, nous avons des réacteurs nucléaires qui sont amortis et on veut les remplacer par des centrales à gaz. Donc 6 gigawatts de nucléaire pour 6 gigawatts de centrales à gaz qui vont coûter énormément, qui vont coûter aux citoyens, qui vont coûter au budget de l'État qui a déjà fort à faire avec les politiques de santé, avec les politiques de pension, avec les politiques de mobilité, etc. Donc, ce n'est pas un gâteau infini. Hein, et tout ça se transformera en impôts un jour ou l'autre. Donc, c'est comme si on vous disait, vous avez vos réacteurs qui sont amortis, vous pouvez encore les utiliser pendant longtemps gratuitement. Eh bien non, on les ferme, on les jette à la poubelle. Vous devez payer, vous, citoyens belges, de nouvelles centrales à gaz. Mais, ça ne va pas.
Mais
ça
ne
va pas.
Il semble quand même que l'exploitant, Engie en l'occurrence, n'ait pas envie de prolonger ses réacteurs.
Non, ce n'est pas qu'il n'a pas envie. Il l'a déclaré au début dans une formule assez spéciale, qui est une sorte de lapalissade, si vous voulez, hein, en disant... Nous constatons que le gouvernement veut appliquer son accord de gouvernement.
Ah oui.
Et donc, nous constatons que le gouvernement a inscrit quelque part dans son accord que la loi de 2003 sur la sortie du nucléaire en 2025 allait être appliquée, sauf petite exception voilà. Bien cachée oui. Dans les lignes de la page 57 de l'accord de gouvernement. Mais donc, nous en tenons compte, nous sommes des industriels, nous avons besoin d'une stabilité, d'une sécurité, et donc nous allons aller dans l'autre sens. Une grosse entreprise comme celle-là ne se fâche pas avec son gouvernement. Ça veut dire que si son gouvernement prend une autre décision, eh bien, l'entreprise va évidemment se remettre à la table des négociations.
Pour vous, c'est une question de négociation avec cette entreprise.
Absolument. C'est exactement ce que j'ai fait. J'avais besoin de ces réacteurs pour la Belgique, pour mon mix électrique renouvelable nucléaire et pour la sécurité d'approvisionnement. Et j'ai donc négocié avec Engie et nous avons d'ailleurs signé une convention de négociation qui a été signée le 30 novembre 2015. Regardez comme chaque fois on revient en novembre avec ces questions, puisque c'est précisément durant ce mois de novembre 2021 que le gouvernement doit choisir ou bien de sortir tous les réacteurs nucléaires de notre mix électrique. Là, je dis stop. Je dis stop parce que c'est vraiment catastrophique et on s'en rendra compte dans les années à venir. Ou bien d'avoir l'intelligence rationnelle de s'ouvrir l'esprit et de dire nous devons garder un bouquet de solutions et nous devons garder avec tous les grands professionnels qui travaillent sur ces sites, tous ces ingénieurs hautement qualifiés, tout le savoir-faire belge, nous devons garder cette filière qui est très importante, qui ne sert pas uniquement à l'électricité mais aussi à la production de radioisotopes médicaux, qui tracent et qui soignent les cancers. Nous devons garder ça en Belgique et nous devons faire un mix de solutions avec le renouvelable et un peu de gaz. Un peu.
On sent bien, Marguem, que ce sujet vous passionne, vous pourriez en parler des heures, mais on est déjà au bout de notre demi-heure d'entretien. Je vous remercie de nous avoir suivis. Je vous remercie, vous, Madame Marguem, pour toute cette discussion et je vous souhaite un bon week-end.